comme on vous l'a dit au tout début de notre réunion, mon intention serait que si des questions pouvaient être posées, ça serait l'occasion peut-être de reprendre des deux côtés qui ont été évoqués à l'instant. Et par conséquent, je invite le public à avoir le courage, parce qu'il faut toujours avoir du courage pour poser les questions. Donc je vous invite de surmonter la timidité et puis d'essayer de dire quelque chose. De ne pas vous laisser quand même tout à fait comme ça. Il y a dans une phrase d'une lettre, Heidegger dit « La plupart du temps, nous parlons trop, mais il arrive aussi que nous parlions trop peu. » Ce que j'aimerais beaucoup, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que dans la discussion qui pourrait avoir lieu, nous arrivions ensemble à parler assez. Alors, je suis vraiment tout oui, nous sommes tous les trois tout oui, à propos des questions.
Je voudrais justement poser une question au niveau de la traduction, parce que là, on a affaire avec la correspondance à une double trahison. Trahison d'abord, parce que la correspondance n'est pas adressée au public, c'est une première trahison. Trahison parce que c'est une traduction de l'allemand en français. Donc, on a une double métaphore, en quelque sorte, une double trahison. Pour se sortir de cette trahison, on a eu un exposé qui essayait de nous ramener le rapport d'Heidegger à l'histoire. L'histoire étant un fait établi qui permettrait de fixer ce glissement métaphorique dans une réalité. Et on voit bien que cette réalité elle-même s'échappe avec l'histoire du renard. Donc moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que la traduction de la correspondance peut amener ou pas par rapport à ce point de fuite, à ce point d'énigme qui constamment échapperait et qui fait de Heidegger un si grand penseur dans un si petit homme. Et ça aussi, c'est déjà une trahison.
Bien. Alors je vais essayer de dire un peu quelque chose en consonance à ce que vous dites. Première remarque, vous dites Heidegger est un petit homme. Vous avez entièrement raison, il mesurait 1m63.
C'est Georges Steiner.
Non mais il mesurait 1m63. Je me demande si on peut dire d'une manière aussi, opposer d'une manière aussi claire un si grand penseur et un si petit homme. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, qui m'intéresse énormément. Vous avez dit, cette correspondance, nous ne devrions pas pouvoir la lire. En effet, je crois... Madame Ursula Lutz, qui a édité la correspondance, le souligne dans sa postface. Cette correspondance n'était évidemment pas prévue pour être gardée et pour être un jour publiée. Et nous sommes dans une situation tout à fait étrange. Grâce à Hannah Arendt, il y a les traces de cette correspondance. Et comme le disait très très justement il y a peu de temps Alain Finkielkraut, nous sommes dans une situation tout à fait curieuse, c'est que nous sommes en principe dans une situation de voyeur, et curieusement, la correspondance ne donne rien de scandaleux à voir. Et ça, c'est encore quelque chose de très étrange dans cette correspondance, et c'est pourquoi je vais reprendre ce qu'a dit Pascal David tout à l'heure. Cette correspondance est très profondément extraordinaire. C'est pourquoi je ne peux pas abonder dans votre sens et parler ici de trahison. Il y a dans le... Non, j'exagère beaucoup. Mais il y a dans le rituel de la messe de Pâques allusion à la faute d'Adam. Et elle est appelée felix culpa, heureuse faute. La trahison d'Anna Arendt, je lui rends grâce. Parce que, à cause de cette... Vous voyez, maintenant je ne dirai plus trahison. À cause de cette... Pourquoi n'a-t-elle pas détruit les lettres? Pourquoi n'a-t-elle pas détruit? Probablement parce qu'elle savait, elle avait la conscience très aiguë, très lucide, qu'il se passait là quelque chose de tout à fait unique. Et c'est ça qui est important, je crois, à dire aujourd'hui. Peut-être, voyez-vous comme c'est étrange, peut-être, en Allemagne, on ne peut pas dire cela d'une façon aussi directe et aussi simple pour des tas de raisons, pour des raisons curieuses, un peu... Et il se trouve qu'en France, nous pouvons le dire. Eh bien, disons-le, c'est une correspondance très extraordinaire dans laquelle nous avons, vis-à-vis de phénomènes aussi fondamentaux que l'amour, au sens le plus... complet du terme. Hein? Nous avons un témoignage et une illustration dont, à ma connaissance, il y a très peu d'exemples. Alors, voilà le premier point, si vous voulez.
J'ai été frappé dans le propos qui a été tenu, on peut dire que Anna Arendt réagit vis-à-vis de Heidegger, qui l'agace, qui l'irrite en même temps qu'il l'intrigue et que parfois même il lui fait pitié. Alors ça certainement ça n'apparaît pas dans la correspondance même, mais est-ce que ça apparaît dans d'autres écrits et comment est-ce qu'on comprendre ça?
Il y a d'autres...
Ça veut dire que dans les années 50, elle n'est plus...
Il y a d'autres correspondances que celles dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire la correspondance d'Anna Arendt avec Jasper, ça a été édité. Et il est souvent question de Heidegger dans cette correspondance. Les lettres qu'elle a échangées avec son mari Heinrich Blücher comportent aussi beaucoup de choses en sens, donc c'est à ce genre de choses que j'ai fait allusion.
Oui, mais justement, c'est pas en consonance avec la correspondance même.
Ou bien, bon, de... Oui, mais la correspondance, justement, bon, n'est pas une correspondance. Le titre de couverture est « Lettres et autres documents ». Et donc, bon, il y a des documents. Bon, il y a le texte qu'elle a prononcé à la radio bavaroise en 1969 à l'occasion du...